Donc mon propos, il va consister à décrire comment, dans la guerre civile syrienne, entre 2011 et 2018, MSF est intervenu ou a tenté d'intervenir dans, pour mener des opérations de secours dans quatre zones distinctes. Donc la première, c'est celle que vous voyez en rouge. Donc c'est dans le nord-ouest, dans les gouvernorats d'Idlib et Alep, contrôlés par différents groupes rebelles. La seconde, c'est dans le nord-est, donc la partie encadrée en noir. Donc nord-ouest, administré par la filiale syrienne du PKK, donc le PYD. La troisième, ça sera durant notre présence dans le gouvernorat d'Alep, pendant la montée en puissance de l'État islamique en Irak et au Levant, lorsqu'on travaillait dans la ville de Kabassine en 2013 et en 2014. Et ma dernière partie, ce sera de montrer un peu les différentes initiatives d'MSF pour travailler en zone gouvernementale depuis Damas. Donc pour mener à bien ce travail, je me suis appuyé sur différentes méthodes de recherche. La première étant un travail de terrain fait d'observations. Donc des observations à travers différentes missions. En 2012, dans le gouvernorat d'Idlib et d'Alep. En 2015, à Gaziantep, en Turquie. En 2017 et en 2018, dans la région de Kobané, dans le gouvernorat de Raqqa. Aussi différentes recherches exploratoires qu'on appelle dans le jargon humanitaire des missions exploratoires, donc dans la ville d'Alep, dans la ville d'El Bab et dans la ville de Mambij, de la recherche documentaire issue principalement de la littérature produite par MSF, donc des rapports, des ouvrages, des communiqués de presse, mais aussi des lettres officielles, de la veille contextuelle à travers Internet, où sont présents différents analystes politiques, différents groupes armés et des défenseurs de droits de l'homme aussi. Et pour finir, au moyen d'entretiens, donc des entretiens avec nos principaux partenaires syriens et les responsables historiques à Paris et en Syrie de nos opérations. Donc en préambule, je tenais à souligner que les Syriens ont été et demeurent les principaux acteurs de la mise en œuvre des opérations de secours en Syrie. Donc ça a été essentiellement une aide endogène, que ce soit à travers les associations caritatives, donc qui existaient avant les manifestations de 2011, à travers les réseaux informels d'aide, à travers aussi les nouvelles institutions comme les comités de coordination ou les conseils locaux, ou bien les organisations issues de la diaspora syrienne. Donc je vais commencer avec la partie nord-ouest, dans les gouvernorats d'Idlib et d'Alep, contrôlés par différents groupes rebelles. Mais avant de parler du nord-ouest, je vais décrire un peu comment on a essayé de travailler depuis Damas. Donc suite aux manifestations et à la répression qui s'en est suivie, en 2011, donc en juin exactement, on a envoyé une équipe de deux personnes à Damas pour essayer d'obtenir une autorisation de travail. Donc personne n'a voulu nous recevoir. Et du coup, notre équipe, à travers une journaliste française, elle a rencontré le président d'une organisation locale qui s'appelait Terre des Hommes Syrie, qui possédait tout un réseau de soutien à différentes structures médicales officielles, comme l'hôpital Shifa à Homs, ou bien différentes organisations d'aide. Après plusieurs discussions, au final, on a recruté l'administrateur de cette organisation, qui était un ressortissant français, et qui est devenu notre principal coordinateur basé à Damas, et qui soutenait les différents réseaux d'aide dans la banlieue de Damas, dans la Ghouta, dans le sud du pays, à Deraa, dans le gouvernorat de Homs et dans le gouvernorat de Hama. Donc de janvier à mars 2012, il a été soutenu techniquement dans la constitution de kits médicaux et surtout financièrement par une équipe qui était basée à Beyrouth, au Liban. Il a été évacué en mars 2012 suite à la fermeture de la chancellerie française à Damas. En parallèle de ce travail, fin 2011, on avait été approché au niveau de notre bureau à Paris par une organisation issue de la diaspora syrienne qui s'appelle OSSM, donc l'Union des organisations de secours et des soins médicaux, que je vais appeler l'Union par facilité. Donc l'Union est venue nous solliciter à l'époque parce qu'ils voulaient bénéficier de la notoriété d'MSF pour intervenir depuis la Turquie. À partir de là, durant l'année 2012, on a travaillé en partenariat avec l'Union, dans un premier temps depuis la ville de Rehanli, donc une ville frontière en Turquie, où on a mis en place des opérations transfrontalières d'approvisionnement médical des différentes structures qui soignaient des blessés à l'intérieur de la Syrie. La deuxième activité qu'on a mis en place avec l'Union, c'est l'ouverture d'un hôpital clandestin dans la ville de Atmé, donc toujours sur la frontière syrienne en Syrie. Donc c'est une structure qui était d'abord une habitation qu'on a transformée en hôpital. Et tout ça, on a pu le faire grâce à un responsable médical de l'Union, donc de la ville d'Atmé, qui appartenait aussi à un des groupes les plus connus, des groupes rebelles en Syrie, donc Ahrar al-Sham, qui assurait notre protection dans cette zone. Donc on a ouvert cet hôpital en juin 2012. Dès l'ouverture de cet hôpital, on a envoyé un courrier au ministre des Affaires étrangères syrien pour l'informer que MSF avait envoyé une équipe internationale pour soigner des blessés de guerre à l'intérieur de la Syrie. Une semaine après, on a eu une réponse de ce même ministre qui nous a dit 1. Votre entrée est illégale. 2. Les autorités syriennes ne sont pas responsables de votre sécurité. 3. On vous demande de quitter le territoire. Et 4. On vous rappelle que seul le Croissant-Rouge arabe syrien et le Comité international de la Croix-Rouge sont habilités à fournir de l'aide à l'intérieur du pays. Bon, ça ne nous a pas empêché de continuer nos activités. Donc, le mois d'après, en juillet 2012, a commencé la bataille d'Alep. Une bataille qui a fait pas mal de victimes dues au combat. Notre structure qui était basée sur la frontière turque à l'est d'Alep, on ne voyait pas arriver tant de blessés que ça. Donc on s'est posé les questions de savoir où sont soignés les blessés, par qui, comment. Et donc du coup, on a monté une mission exploratoire. Donc une mission composée de deux personnes. Donc, à l'époque, c'était Jean-Hervé Bradol et moi-même, qui avaient pour mission de répondre justement à ces questions. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rendu à Reyhanlı en Turquie. On a construit une relation de confiance avec le responsable médical de l'Union chargé d'Alep, qui lui-même avait des contacts, avait tout un réseau d'activistes dans la ville, qui sont venus nous récupérer à la frontière syrienne, qui nous ont fait rentrer en zone gouvernementale et le lendemain nous ont fait rentrer en zone rebelle. Donc du coup, ça nous a permis de visiter toutes les structures, d'avoir une idée des besoins et surtout, on s'est rendu compte que la route d'évacuation des blessés, elle ne se dirigeait pas vers l'est où se trouvait notre structure, mais plutôt vers l'ouest sur la ville d'El Beb. Donc suite à cette mission Explo et à nos différentes analyses, par la suite, on a développé d'autres projets dans le nord-est de la Syrie. Donc si au début, on avait un focus sur tout ce qui était blessé de guerre, on a diversifié notre offre de soins en développant des soins materno-infantiles, en travaillant dans des camps déplacés et en mettant en place aussi des campagnes de vaccination. La première difficulté qu'on a rencontrée dans le nord-ouest, ça a été le 2 janvier 2014. À la suite du kidnapping de 5 membres de nos collègues de MSF Belgique dans le sud du gouvernement d'Idlib. Donc, à la suite de cet incident, on a évacué tout le personnel international qui était présent en Syrie. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à re-rentrer dans le nord-ouest avec du personnel international. Donc si je peux conclure sur cette première partie, la première chose que je voudrais dire, c'est que le fait de s'adapter, ça a été une constante dans le Nord-Ouest. Comme vous l'avez vu, on s'est adapté au niveau des besoins. On a commencé par des blessés de guerre, on a diversifié notre offre de soins. Notre hôpital d'Atmé, qu'on avait ouvert en 2012 pour soigner des blessés de guerre, est devenu un centre de prise en charge pour brûlés, sachant que c'était le seul centre dans le nord de la Syrie qui prenait en charge ce type de patients, en dehors de celui d'Alep qui était en zone gouvernementale. S'adapter aussi au niveau du modus operandi. On a commencé par des activités transfrontalières, ensuite on est passé à un mode de gestion direct avec présence de personnel international et in fine on est passé à un mode de gestion à distance depuis Gaziantep en Turquie où était basée l'équipe internationale qui venait en soutien des Syriens qui sont restés dans le pays pour continuer les opérations MSF. Et donc aussi, c'est grâce au développement de relations de confiance et de tout un réseau qu'on a pu développer des activités et aussi avoir accès à certaines zones. Pour finir sur cette partie, je dirais que c'est grâce encore une fois à nos collègues syriens qu'on a pu maintenir des opérations dans le Nord-Ouest. Alors, concernant le Nord-Est contrôlé par la filiale syrienne du PKK, donc le PYD, je vais commencer par un éclairage contextuel. Donc, il faut savoir que cette zone-là, qui représente un noir, elle a été sous-traitée dès 2012 par Damas au PYD. Et donc cette sous-traitance, c'était une sous-traitance stratégique. Un, elle permettait à Damas de mettre à mal la Syrie, la Turquie, qui soutenait les rebelles contre le gouvernement syrien. Et elle a aussi permis au gouvernement syrien de focaliser ses forces militaires sur d'autres fronts. Elle s'est traduite, cette sous-traitance, par un pacte de non-agression conditionné. Donc Damas a imposé au PYD de ne pas rejoindre les différents groupes rebelles et dans le même temps de neutraliser toute manifestation hostile au régime syrien. De notre côté, MSF, notre intervention dans cette zone, elle a été motivée par deux raisons. La première, par le fait qu'il y avait une offensive militaire qui se préparait dans la région de Raqqa. Et la deuxième, par le fait que les responsables Rojava, France et Europe sont venus nous solliciter directement dans nos bureaux à Paris pour intervenir en amont de cette offensive militaire. Donc cette zone, on y est intervenu en 2017 et en 2018, c'est une des rares zones aujourd'hui en Syrie où on peut envoyer du personnel international. C'est lié notamment au fait qu'il y a une présence de l'armée américaine. Donc comment on accède à cette zone? C'est une négociation qui se fait à deux niveaux. La première négociation pour entrer dans cette zone, elle se fait au niveau du Kurdistan irakien, avec le PDK, donc qui contrôle une partie de la frontière. Et l'autre négociation, elle se fait avec le PYD. Donc pourquoi j'insiste sur ce point? Parce qu'en fait, quand on a commencé à travailler dans cette zone et qu'on a voulu négocier notre accès d'abord avec le PYD, ils nous ont demandé de nous adresser au PDK. Pourquoi? Parce que le PDK et le PKK sont en compétition pour le leadership du nationalisme kurde. Et donc il y a de profondes divisions qui traversent les deux partis politiques. Donc qu'est-ce qu'on a développé dans cette zone? Trois types d'activités. La première, c'était un soutien à l'hôpital de Kobané pour soigner les blessés de guerre venant de l'offensive sur Raqqa et aussi soigner la population locale. La deuxième activité, c'était des soins de santé dans la ville de Ain Issa, au nord de la ville de Raqqa. Donc c'était Ain Issa, en fait, on est intervenu dans le camp de déplacés. Et la troisième activité, c'est un centre de santé qu'on a ouvert dans la ville de Tabqa, toujours dans le gouvernorat de Raqqa. Donc des soins de santé pour la population locale et les déplacés. Donc dans la négociation de ces activités, on est passé par différentes institutions. La première, c'était l'autorité de santé de Kobané, avec qui on a négocié l'accès à toutes ces zones. La deuxième, c'était le conseil civil de la ville de Tabqa, donc un conseil civil qui est géré par des Kurdes, alors que la ville est majoritairement arabe. La troisième administration, c'était le conseil civil de Raqqa, qui était basé à l'époque dans la ville de Ain Issa. Et une dernière administration, donc le bureau ONG et développement du Conseil démocratique syrien, la branche politique des forces démocratiques syriennes qui ont été créées par les Américains fin 2015 et qui sont en fait une coalition de combattants du YPG, du PYD, avec différents groupes arabes de la région. Donc on voit qu'il y a toute une superposition de différentes administrations. En théorie, quand on lit un peu la hiérarchie qui a été établie au niveau du PYD, toutes ces administrations devraient répondre à ce qu'ils ont baptisé l'administration autonome. Mais de par mes observations et de par toutes les discussions que j'ai eues avec les Syriens localement, tout le monde parle du fait que ces administrations, elles sont gérées par ce que les gens appellent là-bas les hommes de l'ombre. Les hommes de l'ombre, en fait, c'est des cadres du PKK qui sont venus de Turquie. Donc notre valeur ajoutée par rapport à l'offensive de Raqqa, c'était à travers le support de l'hôpital de Kobané. Ce support, on l'a commencé en mai 2017. L'offensive dans la ville de Raqqa, elle a commencé en juin 2017. Moi, je me suis rendu dans cette zone en juin et en juillet de cette année-là. Et les premiers questionnements qu'on a eus en tant qu'acteur humanitaire, c'était de savoir pourquoi on avait aussi peu de blessés qui arrivaient dans notre hôpital. Quand je suis rentré en France, fort de toutes mes observations et aussi des discussions qu'on a eues avec nos équipes, j'avais rédigé à l'époque une tribune dans Le Monde, donc en août 2017, pour dénoncer le fait que les blessés qu'on voit sont majoritairement originaires en dehors de la ville de Raqqa, mais du gouvernorat de Raqqa, majoritairement aussi victimes de mines, à 90%, et aussi dénoncer le fait que dans cette offensive militaire, la coalition anti-État islamique qui appuyait l'effort démocratique syrienne n'ont pas mis en place de système d'évacuation et de prise en charge des blessés. Après 6 mois de support à l'hôpital de Kobané, la cellule des urgences qui gérait à Paris les opérations en Syrie m'a demandé de repartir à Kobané parce que nos équipes rencontraient des difficultés avec l'autorité de santé de Kobané. Donc, bon, j'ai pas le temps de tout développer, mais la difficulté principale est tournée autour du fait que notre équipe médicale dans l'hôpital n'arrivait plus à soigner des blessés qui venaient de Raqqa. Et pourquoi ? Parce que systématiquement, les blessés qui arrivaient à l'hôpital de Kobané étaient transférés vers d'autres structures. Donc, on a organisé une réunion avec l'autorité de santé de Kobané début décembre 2017. Et pendant cette réunion, les autorités nous ont expliqué que eux, depuis octobre, ils avaient pris la décision unilatérale de plus prendre en charge les blessés de la ville de Raqqa. Bien sûr, sans nous informer. Et donc, du coup, face à toutes ces difficultés, on leur a annoncé qu'on allait stopper notre support. Donc, quand on parle de blessés de Raqqa, pour les gens de la zone, ça veut dire en gros des Arabes. Donc on a mis fin à notre support dans l'hôpital de Kobané. Et finalement, en 2018, on a mis aussi fin à nos opérations dans le nord-est. Donc pour résumer un peu notre intervention dans cette partie de la Syrie, décrypter, c'est vraiment l'adjectif approprié pour comprendre le fonctionnement du PYD. Comme vous avez vu, il a fallu comprendre les différents niveaux administratifs, qui tirait les ficelles derrière, etc. Finalement, on a dû renoncer à travailler dans cette partie de la Syrie, malgré le fait que ce soit la seule zone où on puisse intervenir avec du personnel international. Mais le fait qu'on a arrêté d'intervenir, c'est surtout lié au fait qu'il y avait de la discrimination donc des autorités de santé de Kobané vis-à-vis des patients arabes qui venaient sur l'hôpital, malgré le fait qu'au début de notre intervention, on s'était mis d'accord sur le fait qu'on pouvait soigner ce type de blessés. La dernière chose que je vais dire par rapport à cette zone, c'est que la propagande, elle est tellement bien huilée par le PYD qu'il y a un discours dominant sur le fait que le Rojava est un exemple de démocratie directe, de projet écologique, de défense des droits des femmes, etc., etc., etc. En fait, de par mes observations, c'est en fait un système totalitaire qui ne tolère aucune opposition, qu'elle soit kurde ou arabe. Je vais passer à notre expérience d'intervention dans la ville de Kabassine, contrôlée par l'État islamique en Irak et au Levant en 2013 et en 2014. Déjà, je vais apporter une précision. Donc, notre expérience, elle est avec l'État islamique en Irak et au Levant. Le premier nom de ce groupe, c'était l'État islamique en Irak, qui a été proclamé en 2006 par le Conseil consultatif des Moudjahidines en Irak. Suite à l'invasion américaine du pays. C'est en avril 2013, suite à sa participation à la guerre civile syrienne, que l'État islamique en Irak va devenir l'État islamique en Irak et au Levant. Et ce sera avec la prise de Mossoul, en juin 2014, que l'État islamique en Irak et au Levant va devenir l'État islamique qu'on connaît aujourd'hui. Donc MSF à Kabassine avait ouvert un hôpital dans cette ville en mai 2013. C'était une ville majoritairement kurde et épargnée par les bombardements de l'armée syrienne. Nos principaux interlocuteurs à l'époque, c'était le Conseil civil, la Cour islamique et différents groupes politico-militaires. Donc il y avait des brigades de l'armée syrienne libre, il y avait une présence de Ahrar al-Sham, il y avait Jabhat al-Nusra et le PYD. Quand l'État islamique prend le contrôle de cette ville en août 2013, il était à l'époque, avant de prendre son contrôle, un groupe parmi les autres. Donc 2 jours après sa prise de contrôle, l'État islamique est venu voir notre responsable de projet dans la ville de Kabassine. Et après discussion, il va lui remettre un engagement écrit de protection de notre personnel et de notre structure. Donc je vais vous lire cet engagement. Donc, au nom d'Allah, le bienfaisant, le miséricordieux, louange à Allah, paix et bénédiction sur son prophète Mohammed, à partir de maintenant, l'hôpital de MSF continue à traiter tous les cas, sans partialité envers aucune partie. MSF consulte l'État islamique à Kabassine en cas de problème dans l'hôpital. L'État islamique prend la responsabilité de protéger l'hôpital si un danger devait survenir. tous les médecins, hommes et femmes, continuent de travailler dans l'hôpital. Donc voilà, c'est cet engagement écrit, en fait, dans la jurisprudence islamique, ça s'appelle un amen, ce qui équivaut à un sauf-conduit, qui permet à des non-musulmans de pouvoir être présents et de bénéficier d'une protection dans un territoire contrôlé par des musulmans. Nous, comment expliquer qu'on a pu travailler sous le contrôle de l'État islamique dans la ville de Kabassine? Finalement, durant sa prise de pouvoir, l'État islamique en Irak et au Levant, il a toléré la présence des membres des différents groupes, qu'ils soient kurdes ou arabes, dans la ville. Il a aussi maintenu les institutions déjà existantes, tout en développant les siennes en parallèle. Et le fait qu'il a accepté que MSF puisse continuer à fournir des soins de santé, ça s'inscrit dans une stratégie plus large, donc une stratégie de fourniture de services de base aux populations locales. Cette stratégie, elle est située dans le temps, dans la phase de séduction, selon le séquençage qu'avait décrit Jean-Hervé de Bradol dans un article lorsqu'il était responsable du projet de Kabassine. Donc je vais vous lire une partie de cet article. Donc il disait « Je poursuivais ma réflexion et la deuxième phase des relations entre populations et djihadistes transnationaux me semblait être celle de la lune de miel. Leur arrivée au pouvoir dans certaines localités s'accompagne souvent d'une amélioration temporaire de la sécurité collective et d'une baisse des prix des denrées de première nécessité. Les premières contreparties exigées paraissent mineures en regard de l'amélioration momentanée de la sécurité collective et du pouvoir d'achat d'une population auparavant exposée à la violence de la dictature, aux prédations de divers groupes politiques en armes et aux méfaits des bandits. C'était ce qui se produisait dans notre ville à la fin de l'été 2013. » Donc, en plus de tous ces bienfaits, à l'époque, on avait observé qu'il y avait vraiment une véritable adhésion au programme politique de l'État islamique en Irak et au Levant par la population. La population se disait on a tout essayé, pourquoi pas essayer les djihadistes. Il y avait aussi une valeur ajoutée d'un point de vue de la morale, parce qu'à l'époque, on pouvait lire sur certains murs des villages alentours, venez couper la tête aux voleurs, par exemple. Donc pour conclure sur cette partie, je dirais que notre expérience, elle est à restituer dans ce que Jean-Hervé Bradol avait défini comme la phase lune de miel que j'ai précédemment citée. Mais on sait comment l'État islamique a évolué dans le temps vers plus de violence et vers plus de totalitarisme. Un autre point que je voulais souligner, c'est le fait que comme dans la plupart des zones de conflit, MSF, que ce soit avec un État ou un groupe armé, on se retrouve toujours dans une convergence d'intérêts. On voit là que MSF avait pour but de soigner tous les blessés et que l'État islamique en Irak au Levant avait pour objectif de fournir des soins de population, des soins de santé à la population. In fine, par rapport à notre expérience avec l'État islamique, c'est son comportement, donc le kidnapping de nos collègues le 2 janvier 2014 au sud de la province d'Idlib, qui a fait qu'on a stoppé toutes nos opérations à Kabassine, parce que suite à ce kidnapping, on a évacué tout notre personnel international. Et par la suite, l'absence de réponse suite à cet incident critique a fait que MSF a décidé de ne plus intervenir dans les zones contrôlées par l'État islamique. De façon générale, je dirais que notre expérience avec des groupes djihadistes, elle nous a montré que c'est possible d'intervenir, mais que de façon temporaire. On a observé toujours la même tendance liée au fait qu'avec le temps, il y a un durcissement des conditions qui fait qu'on n'est plus à même d'intervenir. La dernière partie, je vais essayer d'expliquer un peu comment on a tenté d'intervenir dans les zones contrôlées par le gouvernement depuis Damas. Donc tout au long des 8 dernières années de guerre en Syrie, de 2011 à 2018, MSF a persisté et n'a cessé de solliciter les autorités syriennes afin d'intervenir dans les zones qu'elles contrôlent. Parmi ces zones, il y avait des zones où il y avait vraiment des besoins aigus, comme ce qu'on appelait les zones assiégées. Ces zones assiégées, elles ont commencé dès fin 2012 avec Daraya, après ça continue avec Waher, donc un quartier de la ville de Homs, La Ruta, Madaya, Zebadani, Alep Est et d'autres zones. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait différentes démarches auprès de plusieurs représentants du gouvernement syrien via différents canaux. Donc ces démarches, je les ai classées en trois familles. La première famille, c'est les contacts directs initiés par MSF. La deuxième famille, c'est ce que j'appelais la carte BRICS via le bureau MSF Afrique du Sud. Et la dernière famille, c'est ce que j'appelais l'option russe. Donc les contacts directs initiés par MSF, en fait, tout le long de l'année 2011, on a adressé des courriers au ministère des Affaires étrangères et au ministère de la Santé syrien afin d'intervenir depuis Damas. Donc ça a été sans succès. En mars 2010, on a un peu changé notre message. En fait, le président de MSF International a envoyé un courrier aux autorités syriennes pour les informer qu'on avait commencé à travailler en zone rebelle pour soigner des blessés et qu'on réitérait notre demande d'intervenir depuis Damas. Par la suite de ça, jusqu'en mai 2016 environ, alors là, on a envoyé différents courriers à différents interlocuteurs. On a visé le bureau de la présidence, le bureau du Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, le Croissant Rouge arabe syrien et le bureau de la Première Dame. Bien sûr, sans succès. Le dernier courrier officiel qui a été envoyé par MSF, il date d'avril 2018. Donc c'est la directrice générale de MSF Belgique qui a envoyé un courrier qui, en substance, disait « Après 7 ans d'interdiction d'accès, MSF demande une nouvelle fois au gouvernement syrien de l'autoriser à accéder à l'ensemble des zones afin de fournir des soins médicaux aux Syriens qui en ont terriblement besoin où qu'ils soient. » Donc l'autre option, donc c'est ce que j'appelais la carte BRICS via le bureau MSF en Afrique du Sud. Donc les BRICS, c'est ce qui a été défini à la fin du XXe siècle comme étant les principales économies émergentes, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ça part d'une stratégie d'une partie des gens chez MSF qui se disaient finalement on est perçus comme occidentaux. Peut-être qu'en approchant le gouvernement syrien avec des pays qui lui sont alliés, ben peut-être on obtiendra des résultats. Donc comment ça s'est passé? Le bureau MSF Afrique du Sud a contacté l'ambassadeur de l'Afrique du Sud à Damas, qui a rencontré le ministre des Affaires étrangères syrien. Donc ça, c'était en octobre 2012. Suite à cette rencontre, il y a une délégation de MSF Afrique du Sud qui a fait plusieurs réunions avec le ministère de la Santé syrien et le Croissant Rouge arabe syrien. Ces réunions ont débouché en mai 2013 par la signature d'un protocole d'entente pour mettre en place des soins maternels à Damas. Et donc, à partir de là, une fois que ce protocole a été signé, MSF Afrique du Sud a composé une équipe sur une base d'origine de ces pays, donc BRICS, sauf que les visas n'ont jamais été octroyés. Par rapport à l'option russe, la première sollicitation de MSF vis-à-vis du gouvernement russe, elle s'est faite à travers le président de MSF International, donc en mars 2012, qui a contacté directement le ministre des Affaires étrangères russe à Moscou. Ce ministre a contacté l'ambassadeur russe à Damas, qui a transmis le message au ministère des Affaires étrangères syrien. Le retour du ministre des Affaires étrangères syrien, ça a été d'organiser une rencontre à Genève entre la mission permanente syrienne et le président de MSF International. Donc c'est une rencontre qui a débouché à l'été 2012 par une donation de MSF envoyée à Damas au Croissant Rouge arabe syrien. La deuxième tentative, via l'option russe, ça a été fin juillet 2016. Donc, qu'est-ce qui s'est passé fin juillet 2016? En pleine offensive pour assiéger Alep Est, donc avec l'armée russe et l'armée syrienne, le ministère de la Défense russe a fait une publicité pour le montage d'un convoi humanitaire pour Alep Est. Le jour d'après, le bureau de MSF à Moscou a contacté donc le ministère de la Défense russe, qui a organisé une rencontre entre une délégation MSF et les autorités syriennes à Damas. Pendant cette rencontre, les discussions elles ont tourné autour de la mise en place de soins de santé pour les déplacés et aussi de la physiothérapie pour les blessés de guerre dans les gouvernorats de Tartous et Latakié. Donc pour conclure sur cette partie, on voit que de notre expérience, seules des relations diplomatiques nous ont permis de nous asseoir à la table des négociations avec les autorités syriennes. Qu'est-ce qu'on peut tirer aussi comme conclusion? C'est que malgré le fait qu'on réussisse à signer des protocoles d'entente, dès qu'il faut passer aux choses concrètes, donc envoyer une équipe pour monter des projets, on n'a jamais réussi à avoir les visas. Un autre enseignement de cette expérience, c'est le fait que autant en 2013 qu'en 2016, quand on signe un protocole d'entente, les autorités syriennes en 2013 nous orientent sur des activités dans la ville de Damas, alors que les besoins sont considérablement beaucoup plus aigus dans le reste de la Syrie. En 2016, en plein siège de Alep Est, ils nous orientent sur les gouvernorats de Tartous et Latakié. En conclusion de cette partie, je dirais que dans le système de l'aide internationale, finalement, le gouvernement syrien nous voyait, nous MSF, comme un acteur mineur du fait que ce gouvernement, il contrôlait en grande partie cette aide. Sans son autorisation, personne ne pouvait intervenir depuis Damas dans les zones qui étaient sous son contrôle. Que l'essentiel de cette aide, elle était discriminée. Donc c'était Damas qui choisissait les destinataires de l'aide. Elle était disproportionnée. En 2016, 88% de l'aide internationale était déversée en zone contrôlée par le gouvernement syrien et qu'elle était limitée. Quand il s'agissait de monter des convois pour les zones assiégées, il y avait des restrictions qui étaient imposées sur ces convois. Je vais faire une conclusion générale rapide. En conclusion de cette présentation, je dirais que les opérations MSF en Syrie, ça se résume à un exercice d'équilibriste ponctué par différents épisodes d'adaptation aux différentes difficultés. Donc, comme j'ai essayé de le présenter, à chaque fois, il a fallu persister, décrypter, s'adapter. Et je terminerai en disant que, comme j'ai commencé, en soulignant le fait que ce sont les Syriens qui ont été les principaux acteurs de l'aide humanitaire en Syrie.